En 1896 fut créée l'épreuve du marathon en l'honneur d'un coureur grec. À l'origine, Marathon était le nom d'une ville puis de la bataille dans laquelle les Perses furent battus à plate couture par l'armée grecque. Après leur défaite, un messager courut à toutes jambes la distance d'un peu plus de 40 km qui séparait Marathon d'Athènes afin d'annoncer le plus vite possible la nouvelle de cette victoire. À son arrivée, il s'est écrié « Réjouissons-nous, nous avons vaincu !» puis est tombé raide mort d'épuisement. Dans sa course effrénée, il avait donné tout ce qu'il avait. Et parce qu'il ne se préoccupait que de la victoire militaire qu'il avait hâte d'annoncer à ses compatriotes, il n'avait fait aucun cas de ses souffrances, ni même de sa vie. Je continue à lire dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Verset 2. Dans les anciens jeux isthmiques grecs, à côté de la ligne d'arrivée se trouvait un piédestal sur lequel était accrochée une couronne destinée au vainqueur de l'épreuve. En général, ceux qui participent à une course désirent recevoir une récompense, même si ce n'est qu'un petit objet sans valeur. Dans les grands championnats comme la Coupe d'Europe ou les Jeux Olympiques, les athlètes aspirent à une médaille, de préférence en or. Et pour ceux qui gagnent, cette victoire est suivie de toutes sortes d'avantages, la célébrité et même la fortune, grâce en particulier à l'utilisation de leur nom dans les publicités. Quand Jésus est venu ici-bas, c'était pour s'engager dans un combat sans merci où il perdrait la vie. Pour lui, devenir homme et habiter parmi nous fut une rude épreuve. Certes, il a certainement éprouvé une grande satisfaction quand il voyait la joie des gens qu'il guérissait ou réconfortait. Mais la plupart du temps, il était en proie à diverses luttes. Il a dû subir la tentation et l'opposition farouche de Satan, le mépris des chefs religieux et l'incompréhension des gens et même de ses disciples pour finalement être trahi puis renié par deux de ses 12 apôtres, avant d'être torturé et crucifié par les Romains. Jésus savait parfaitement que son parcours ici-bas ne serait guère réjouissant et pourtant cette connaissance ne l'a pas empêché de quitter sa position céleste où il était vénéré par tous les anges pour descendre sur terre parce qu'il savait qu'à l'issue de ses 3 ans et demi de ministère, une grande joie et une gloire supplémentaire à la droite de Dieu l'attendait. Jésus a pleinement manifesté les attributs de son Père, parfaitement obéi à sa volonté et surtout accompli sa mission, la rédemption du monde. En conséquence, il a retrouvé intégralement ce qu'il avait depuis toujours, mais avec un gros plus qu'il n'avait pas auparavant, car il a gagné la reconnaissance de tous les élus et sera glorifié par eux pour l'éternité. En effet, les anges rendent à Dieu ce qui lui est dû, mais comme ce sont des êtres saints et parfaits, ils n'ont jamais expérimenté la miséricorde et la grâce de Dieu, tandis que les élus en ont bénéficié lorsqu'ils ont été tirés du purin de leur péché. Jésus a donc gagné le droit d'être adoré par les êtres humains qu'il a rachetés. De toute éternité, le Christ était assis à la droite de Dieu. Après sa mort et résurrection, il est retourné à sa place légitime sur son trône, mais là encore, avec un gros plus. En effet, cette position d'autorité qui était due à son rang de Seigneur de l'univers, il l'a désormais méritée. Dieu et tout ce qui est en rapport avec l'éternité ne peuvent évoluer. Par contre, ce qui a lieu dans l'espace-temps est soumis au changement. En termes humains, on peut donc dire que, aujourd'hui, et d'une certaine façon, la condition de Jésus est améliorée par rapport à ce qu'elle était avant qu'il ne devienne homme et ne rachète l'humanité. Depuis le sacrifice de Jésus, le type de relation que les hommes entretiennent avec leur Créateur est différent de ce qu'il était avant, puis après la faute d'Adam. Jésus-Christ est le champion de l'homme, puisqu'il l'a racheté, et a combattu pour lui contre Satan. En conséquence, tout ce qui lui appartient, de droit, et ce qu'il a obtenu par ses mérites, appartiennent aussi à ceux qui ont placé leur confiance en lui. Dans l'éternité future, Dieu, Jésus et les croyants seront un. L'apôtre Paul écrit « Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous ». Et lorsque tout se trouvera amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. Il y a un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Fin de citation. Tout comme Jésus qui avait en vue la joie qui lui était réservée, l'apôtre Paul anticipait sa récompense dans les cieux pour son fidèle service. Aux membres de deux églises qu'il avait fondées, il écrit aux uns « Mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense !» Et aux autres, n'êtes-vous pas, en effet, vous aussi notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue. La condition à remplir pour recevoir un prix céleste est la fidélité. L'apôtre Paul écrit « Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants ? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. » Tous ceux qui jusqu'à la fin restent fidèles au Seigneur dans leur vie, témoignage et service, peuvent se réjouir d'avance des récompenses qu'ils recevront. Je continue le texte. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Verset 3. L'auteur s'adresse ici aux Hébreux qui ont souffert à cause de leur foi. Peut-être avait-il plus particulièrement à l'esprit ceux qui avaient tout perdu après avoir été expulsés de Rome par l'empereur Claudius ou Claude. De toute façon, au premier siècle, tous les Juifs qui acceptaient Jésus comme leur Messie ou qui s'intéressaient à lui faisaient l'objet de persécutions de la part de leur famille et de leurs anciens amis. Tous ceux qui osaient remettre en question les coutumes et traditions ancestrales dans lesquelles ils avaient été éduqués étaient considérés comme des traîtres, ce qui entraînait d'intenses pressions économiques et sociales, voire la prison pour certains. Penser à Jésus est une discipline de l'esprit utile à toute personne dont la foi vacille, qui se sent au bout du rouleau ou qui a l'impression que Dieu a oublié même son existence. À côté des héros de la foi, cette nuée de témoins qui a tenu bon jusqu'au bout, il y a Jésus qui, bien que le Fils de Dieu, a dû supporter la méchanceté des hommes, que ce soit de son propre peuple ou des non-juifs. Partout où il allait, il guérissait les malades et pourvoyait aux besoins physiques et spirituels de ceux qu'il rencontrait. Il ressuscitait les morts et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ceux qui bénéficiaient de sa miséricorde ne le remerciaient pas tous, ce qui apparaît bien dans l'histoire des 10 lépreux. Le texte dit qu'ils se mirent à le supplier à haute voix « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer au prêtre !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres ?» Plus Jésus exerçait la miséricorde, et plus les chefs religieux étaient jaloux de lui et cherchaient à le supprimer. Et ils ont réussi, mais ils n'ont fait qu'accomplir ce que Dieu, dans sa souveraineté, avait décrété avant la fondation du monde. Je continue le texte. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Verset 4. Au début de ce chapitre, l'auteur a comparé la vie chrétienne à une course. Maintenant, il utilise pour image la lutte. Le péché est celui de ceux qui s'opposaient aux croyants. À cette époque, les persécutions que subissaient les Hébreux n'étaient pas des tortures physiques, mais des pressions économiques et sociales, comme je l'ai déjà dit, et aussi morales, car on les méprisait et couvrait de ridicule. L'exhortation « Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui » avait pour but de les encourager à tenir bon et aussi à aimer leurs ennemis selon l'exemple que nous a donné Jésus. Je continue le texte. « Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. » Verset 5. Les Hébreux auxquels l'auteur s'adresse avaient oublié beaucoup d'enseignements de l'Ancien Testament, comme par exemple « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Maintenant, il leur rappelle aussi un passage du livre des Proverbes qui dit « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. » Fin de citation. « Ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, » dit l'auteur. Le mot pour correction a pour racine « enfant ». Et à partir d'ici et jusqu'au verset 11, il est utilisé 9 fois sous une forme ou sous une autre. Ces désignations répétées servent à décrire le rôle éducatif de parents ou d'enseignants qui ont la charge de former, instruire, éduquer des enfants ou des étudiants, ce qui inclut aussi les discipliner et les punir. Le but ultime étant évidemment de les aider à se développer et atteindre la maturité d'adulte. L'auteur a déjà comparé la vie chrétienne à une course, à une lutte, avec combat et souffrance. Il continue à la décrire, mais la considère sous l'aspect relationnel des croyants, les uns avec les autres et vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur utilise les épreuves et les afflictions dans la vie de ses enfants de 3 manières différentes. Pour les punir, pour les prévenir de maux plus graves et pour les instruire. Il existe une grande différence entre la correction de Dieu et ses jugements. Les croyants subissent les conséquences douloureuses de leurs fautes, mais ils n'auront pas à endurer le châtiment éternel que Dieu réserve aux pécheurs non repentants, parce que Jésus a pris ce jugement sur lui sur la croix dans sa totalité, ce qui fait que ceux qui se confient en lui n'ont pas à le subir. La justice de Dieu étant satisfaite, quand il reprend ses enfants, c'est en tant que père et non pas comme juge. Le roi David avait volé la femme de l'un de ses officiers,
puis il a fait exécuter le mari.
C'était une pratique courante des rois de l'époque, mais David ne s'en est pas tiré à bon compte, car l'Éternel l'a sévèrement puni pour cet acte ignoble. Pour commencer, l'enfant qu'il a eu avec la femme de l'officier est mort. Et par la suite, il a eu des tas de malheurs avec ses autres enfants et avec les nations voisines. Cependant, avec l'aide du Seigneur, il a pu surmonter toutes ses difficultés et devenir le plus grand roi qu'Israël ait jamais eu. Au 1er siècle, Corinthe avait très mauvaise réputation à cause de ses mœurs dépravées et l'Église était un peu à l'image de la ville. Les croyants utilisaient toutes les occasions pour faire la fête et manquaient de respect envers le Christ. L'apôtre Paul les a sévèrement réprimandés, disant même « C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. » Puis il ajoute que « Les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. » Fin de citation. La discipline divine peut faire très mal, mais elle ne peut pas nuire, car quoi qu'il arrive, Dieu ne renie pas ses enfants et comme tout bon père, il veut qu'ils marchent en communion avec lui et lui obéissent. Un psalmiste décrit l'attitude de l'Éternel vis-à-vis de son peuple de la manière suivante. S'il arrivait que ses fils délaissent ma loi, s'ils ne se conduisent plus selon mes décrets, s'ils venaient à transgresser mes commandements et s'ils n'obéissaient plus à mes ordonnances, je châtirais leurs péchés avec le bâton, je sévirai par des coups contre leur révolte, mais je ne renierai pas mon amour pour lui, je ne démentirai pas ma fidélité, non, car je ne trahirai jamais mon alliance, et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Dieu punit les fautes, mais il peut aussi arriver que je dois faire face à une difficulté qui soit la manifestation de son amour protecteur. Ce fut le cas pour l'apôtre Paul, parce que Dieu lui avait révélé des vérités qui jusque-là étaient cachées. Il écrit « Parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » L'apôtre était un homme très humble qui, grâce à cette écharde, l'est resté. Il ne s'est jamais attribué de mérite, ce qui lui a permis de recevoir la puissance d'en haut et d'accomplir des œuvres extraordinaires et flamboyantes. Cette écharde qui venait de Satan n'était pas une punition, mais un garde-fou, afin que Paul ne devienne pas fou, c'est-à-dire orgueilleux, à cause des succès qu'il rencontrait dans son ministère. Cette affliction protégeait le bien-être spirituel de l'apôtre. Il l'a d'ailleurs très bien comprise comme ça et n'a pas rué dans les brancards puisqu'il dit « Je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Les problèmes et les échecs sont aussi une façon pour Dieu de fermer des portes et de nous diriger là où il veut que nous allions. En troisième lieu, Dieu utilise les difficultés comme moyen d'éducation et d'instruction. Les souffrances attirent notre attention parce qu'elles estompent toutes nos autres préoccupations. Je ne sais pas vous, mais dans mon cas, c'est quand je suis confronté à mon impuissance à trouver une solution à un problème ou à une détresse que je suis le plus conscient de mon besoin de Dieu. Quand moi, je ne peux rien, lui peut tout. Bien que le Seigneur avait déclaré que Job était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal, il a permis que Satan l'afflige un maximum. Job a perdu la totalité de ses biens alors qu'il était très riche et tous ses enfants sont morts accidentellement. Pour finir, il est devenu moribond à cause d'une terrible maladie. Ce que le pauvre homme a dû souffrir n'était pas dû à ses fautes ou pour l'en prévenir, mais faisait partie de son éducation. Bon, on peut trouver la méthode un peu brutale et elle l'était. D'ailleurs, Dieu a dit à Satan qu'il lui forçait la main, mais il l'a quand même laissé faire tout en lui imposant une limite. Bien que Job ait été un homme intègre et tout ce qu'on veut de bien, sa perspective de la vie et de l'éternel était restreinte. Il avait mis Dieu en équation en quelque sorte et avait organisé le monde selon sa propre sagesse. Il considérait que le bien et le mal suivaient un scénario bien rodé qui correspond en gros au principe cause-effet. Alors qu'il subissait de terribles souffrances morales et physiques, il cherchait désespérément une explication plausible, mais n'en trouvait pas. Comme il savait que l'Éternel n'est pas capricieux ou injuste et que ses malheurs n'étaient pas dus à une faute cachée, il lui a fallu apprendre que, d'une part, même les justes peuvent souffrir sans que la raison soit évidente, et d'autre part, Dieu est immensément grand et sage. Il sait ce qu'il fait et n'a de compte à rendre à personne. Après avoir compris la leçon, il a dit « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Fin de citation. Suite à cette expérience particulièrement douloureuse, Job a vu Dieu avec des yeux entièrement nouveaux et il a également appris la compassion. Il a facilement pardonné à ses faux amis qui, au lieu de le soutenir dans ses malheurs, l'avaient enfoncé davantage. Cette histoire tragique finit bien. Le texte dit « Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job deux fois autant de biens qu'il avait possédé. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Grâce à cette histoire, nous bénéficions de la dure leçon que Job a dû apprendre. Quand l'auteur de l'Épître dit « Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur », il invite ses lecteurs à porter un autre regard sur les épreuves qu'ils traversent et à les prendre au sérieux parce que Dieu veut les utiliser pour leur éducation dans le but de les conduire à la maturité. Seulement, il est possible de mépriser la correction du Seigneur. Si je deviens insensible à l'enseignement des Écritures, je m'endurcirai à l'égard de Dieu et de ce qu'il veut me communiquer. Si je serre les dents en attendant que l'orage passe, je montrerai par là que je le trouve injuste, ce qui est une façon de remettre en question son amour et son infinie sagesse. Je ne peux pas comprendre toutes les corrections venant de Dieu, mais par la foi, je peux les accepter et les considérer utiles et parfaites pour progresser vers la maturité spirituelle. L'exhortation de l'auteur « Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend » fait penser aux paroles du psalmiste qui écrit « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ?» Mais le psalmiste ajoute « Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Le remède au découragement, à la grisaille, à la déprime, c'est de résolument placer mon espérance en un Dieu qui m'aime.